Alors, bonjour à tous et bienvenue au cours sur l'essai francophone. C'est pour moi un grand honneur et un privilège d'accueillir M. Joseph Quaterco, qui est professeur titulaire à l'Institut d'études romanes de l'Université de Varsovie, où il dirige depuis 1997 le Centre d'études en civilisation canadienne-française et en littérature québécoise. Alors, ses domaines d'enseignement et de recherche sont passionnants, vous allez voir, la littérature du Québec et des Caraïbes francophones. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages comparatifs et nationaux, donc le roman québécois de 1960 à 1975, Idéologie et représentation littéraire, publié chez Préambule en 1989, ou encore le roman québécois et ses interdiscours, analyse sociocritique, chez Nota Bene en 1998, et plus récemment peut-être l'imaginaire du roman québécois, et il a traduit aussi en polonais le théâtre de Michel Tremblay, Les Belles Sœurs et Le Vrai Monde. Donc il est membre, M. Quaterco, du conseil scientifique de l'Association internationale des études québécoises et récipiendaire du certificat de mérite du Conseil international d'études canadiennes. Je vais vous laisser la parole.
Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, comme je savais que je venais au début de l'année académique et que vous avez juste commencé à étudier l'essai francophone, je me suis dit que parler des revues, c'est aussi une forme de contribution à ce cours, parce que dans les revues, il y a la pensée essayistique, bien sûr, et il y a aussi des préfaces ou des éditoriaux qui, parfois, ont une forme essayistique engagée. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet peu étudié au Québec, notamment des revues québécoises fondées par les intellectuels et les hommes de lettres haïtiens. Donc, il s'agit d'une contribution à l'étude de la sociabilité littéraire au Québec à partir justement de l'apport au Québec des cultures diasporiques, en quelque sorte, au champ littéraire au Québec. Cet apport des revues fondées par les écrivains haïtiens immigrés au Québec. Et on a beaucoup parlé d'une revue qui a été, dans les années 90, fondée par les immigrants italiens, notamment Vice Versa, mais les trois revues que je vous ai écrit, dont je vous ai écrit les titres et les années de publication et le nombre de numéros, ont relativement été très peu étudiées, ces revues-là. Même il y avait des groupes de recherche à l'UDM sur l'américanité et ils n'ont pas touché à ces revues-là. Donc, je vais parler des revues québécoises fondées par les intellectuels haïtiens des trois dernières décennies du XXe siècle. Et pour les mettre en perspective, je vais peut-être commencer quelques considérations sur le champ des revues vers la fin des années 60. Et je dirais ceci peut-être pour commencer, qu'avec l'essoufflement de la Révolution tranquille, au tournant des années 60 et 70, le champ des revues au Québec commence à se diversifier. Comme le note Lucie Robert, je vais la citer, elle dit ceci: « En réaction au discours néo-nationaliste, apparaissent de nouveaux lieux de marginalité et de nouveaux discours qui élargissent le champ du politique vers des sujets encore inexplorés, tels la contre-culture, l'écologie, le féminisme et les solidarités communautaires. De sorte qu'à partir de 1968, ce qui caractérise le champ des revues est précisément l'absence d'un grand projet national unificateur et en corollaire l'émergence de projets plus radicaux mais plus restreints. » Fin de la citation. En effet, dès la moitié des années 70, on observe une diversification croissante des revues et une tendance de la culture québécoise à s'internationaliser. En une seule année, 1975, ont lieu trois événements qui confirment cette orientation, cette tendance à l'internationalisation. Notamment, En 75 a lieu la rencontre internationale de la contre-culture à Montréal. Rencontre internationale de la contre-culture. La rencontre, encore un autre événement. La rencontre québécoise internationale des écrivains sur la femme et l'écriture à la revue Liberté à l'occasion de l'année mondiale de la femme. Et, toujours en 75, la création de l'association des traducteurs littéraires au Québec. Rappelons également qu'après la disparition des partis pris, revue marxiste indépendantiste en 68-69, le champ des revues d'idées et des revues littéraires québécoises est occupé, sinon dominé, par Liberté, fondée en 1959, ouverte sur le monde, mais surtout sur l'Europe. Ça a son importance parce que les revues dont je vais vous parler seront très ouvert à l'Amérique latine et aux Amériques. Donc Liberté très ouverte sur l'Europe, surtout la France et l'Allemagne. Ensuite, il y a encore Écrits du Canada français qui ont été fondés en 54. Et puis, dans les années 60, la Barre du Jour, fondée en 1965, qui est devenue la nouvelle Barre du Jour en 1977. Puis, les Herbes Rouges, revue de création poétique fondée en 1968, qui s'inspirait du formalisme et de la revue parisienne telle qu'elle. Alors, je dirais que c'est dans ce contexte de mutation socioculturelle et institutionnelle au sein du champ des revues que émerge, on pourrait interroger justement l'émergence et l'activité éditoriale tout à fait exceptionnelle, d'après moi, des trois revues fondées par les intellectuels haïtiens immigrés au Québec. Ce sont des revues qui ne sont pas des revues communautaires. D'accord? Ça s'adresse pas à la communauté haïtienne. Ça déborde l'optique. C'est-à-dire, il y a la première revue Nouvelle Optique. Elle est très proche du milieu haïtien et des affaires d'Haïti, mais pas seulement, vous allez voir. Alors, Nouvelle Optique, 9 numéros entre 1971 et 73, dérive 56 numéros. C'est très important qu'elle s'est maintenue pendant 12 ans. Et puis, la revue Rupture, 14 numéros entre 92 et 99. Il faut noter au préalable, peut-être aussi, que les intellectuels et les écrivains haïtiens contraints à l'exil par le régime de Duvalier, on trouvait au Québec un ancrage très important, déjà au commencement des années 70. Ils ont notamment une visibilité chez plusieurs éditeurs québécois, comme les éditions Naaman à Sherbrooke, Léméac, Guérin, Pierre Tisser. Ce sont des éditeurs qui publient aussi certains écrivains haïtiens dispersés dans diverses diasporas, pas seulement au Québec, tels que René Despestes, qui vit à Cuba et en France, Jean-Claude Charles, écrivain un peu voyageur entre la France et les États-Unis, Roger d'Orsainville, Canada et Afrique, ou Paul Larac, Cuba et les États-Unis. Outre ces canaux éditoriaux de diffusion, il faut observer, ça c'est très important, point de vue de la participation des collaborateurs québécois à ces revues-là. Il faut observer une certaine osmose sur le plan humain, c'est-à-dire des réseaux de convivialité et de solidarité, ainsi que de complicité politique et militantiste qui se sont constitués entre les membres du mouvement Haïti littéraire. C'est un groupe, un mouvement littéraire en Haïti qui sont chassés par Duvalier, qui ont trouvé asile au Québec, comme Gérard Étienne, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau, Anthony Phelps et Émile Olivier, et les écrivains et les intellectuels, les poètes de la Révolution tranquille québécoise, comme Paul Chamberlain, Gaston Miron, Gilbert Langevin, Gilles Bourque et Jean-Marc Piot de Parti pris. Si, globalement, on peut situer ces trois revues, mais vraiment en schématisant, dans un même champ idéologique, c'est-à-dire c'est un champ plutôt une orientation anti-impérialiste et tiers-mondiste, il faudrait aussi mettre en relief la spécificité de chacune de ces revues et les rôles singuliers qu'elles ont joués dans l'ouverture du discours intellectuel et artistique et littéraire québécois à la diversité et surtout à la perspective inter-américaine. Alors, je vais parler de la première revue, Nouvelle Optique. Cette revue, dont le second segment ou le sous-titre porte la mention « Recherche haïtienne et caribéenne », a publié 9 numéros entre 71 et 73, dont certains atteignent le tirage de 1000 exemplaires. C'est beaucoup à l'époque. Cette revue est fondée par les intellectuels québécois d'origine haïtienne, dont certains ont une expérience de rédacteur de revues en Haïti encore, Erard Jadot, Colette Pascui, Carl Lévesque, Carrie Hector et Jean-Richard Laforêt. Je me permets une digression. Pour faire cette étude sur les revues fondées ici au Québec par les écrivains et les intellectuels haïtiens, j'ai dû prendre des rendez-vous avec des anciens rédacteurs en chef, non pas ici, mais à Port-au-Prince. Parce que plusieurs rédacteurs en chef sont rentrés du Canada, des Canadiens d'origine haïtienne, et qui occupent des postes à l'université ou dans des éditions en Haïti. Donc j'ai pris des rendez-vous avec eux, avec Claude Moïse, avec Erard Jadot, avec Carrie Hector en Haïti pour avoir des informations du genre sociologique sur l'émergence, les tirages, la fabrication de la revue, etc. Alors, cette revue, à la première équipe de rédaction, constituée par ces personnes que j'ai mentionnées, Erard Jadot, Carl Lévesque, Carrie Hector, Jean-Richard Laforêt, vont se joindre Émile Olivier, Anthony Phelps et Claude Moïse, qui aussi dirige à Montréal une autre revue qui s'appelle Collectif Parole, dont je ne vais pas parler, elle est plus politique, elle est moins culturelle, revue culturelle et politique qui a existé de 79 à 87. Alors c'est un beau sujet d'étude pour quelqu'un qui, parce que ce Collectif Parole n'a pas eu de retentissement critique, donc si quelqu'un s'intéresse à ces revues, c'est à prendre. Il n'y avait pas, Maximilien, des études sur Collectif Parole. Je m'assure parce que c'est une autorité. Alors, donc, dès son premier éditorial de Nouvelle Optique, en 71, Nouvelle Optique se définit avant tout par la situation haïtienne au début et veut faire entendre sa voix depuis le Québec afin de participer, je cite, à la restructuration sociale, économique et culturelle nationale. Mais à l'encontre de la revue haïtienne Optique, qui existait dans les années 50 et 60 et qui a basculé dans ces années dans la doctrine nationaliste et dans un patriotisme populiste idéalisant l'idéologie raciale négriste qui se proclamait de la revue des Griots où il y avait François Duvalier. Nouvelle Optique, à l'encontre donc de l'Optique, est une revue militante qui s'engage contre l'oppression duvaliériste et dont l'objectif est de donner une nouvelle optique justement au projet révolutionnaire haïtien qui était jusqu'alors jugé trop confiné aux politiques, alors qu'il s'agit de faire une révolution des consciences culturelles, intellectuelles, économiques. Il s'agit en particulier d'ouvrir les écluses à la création et à la critique littéraire, ainsi qu'à la réflexion autour des questions sociales, économiques et éducatives. Si le projet de Nouvelle Optique semble à prime abord tourné vers Haïti et les questions nationales, il n'en reste pas moins très attentif aux problèmes du tiers-monde et à une perspective internationale. Avec son objectif à la fois politique et culturel, la revue privilégie la conception marxiste dans son approche de la réalité haïtienne et celle des Caraïbes et de l'Amérique latine. Plusieurs articles réfèrent en effet à la lutte de classes ouvrières et paysannes du tiers-monde, en particulier aux contradictions inhérentes à la situation cubaine, au rapport entre l'idéologie raciale des Duvalier et le sous-développement haïtien, ou encore à la nature idéologique des conflits historiques entre Haïti et la République dominicaine depuis la période coloniale aux années 1960. La revue publie également des documents inédits en français, comme les manifestes des syndicats révolutionnaires en Argentine, dont le numéro 6 de 72, et plusieurs essais critiques s'inspirent des travaux des chercheurs brésiliens. Erard Jadot, le rédacteur en chef, s'appuie notamment sur l'étude d'Antonio Candido, sur une étude intitulée « Sous-développement et littérature, sous-développement et littérature en Amérique latine, qui a publié cette étude dans Cahiers d'histoire mondiale en 1970 pour analyser les tensions au sein de la littérature haïtienne entre les écrivains nationaux, proches de l'indigénisme, d'un mouvement indigéniste, et les écrivains dits assimilés, c'est-à-dire les écrivains francophiles cosmopolites. Émile Olivier propose aussi d'étudier les travaux d'un grand, grand anthropologue brésilien, Paulo Freire, sur la question de l'alphabétisation au Brésil, afin de dénoncer, par analogie aussi, de dénoncer le programme national d'alphabétisation mis en place par le régime de Duvalier, de François Duvalier, et confié aux volontaires pour la sécurité nationale, c'est-à-dire les fameux tonton Macoute, analphabètes en majorité, qui devaient, eux, n'est-ce pas, inculquer et réaliser ce programme national d'alphabétisation. Dans les analyses de la littérature haïtienne qu'on trouve dans Nouvelle Optique, il y a des concepts très intéressants, théoriques, qui sont dominés par la référence allemande à Walter Benjamin et Bertolt Brecht, et par la référence française. Et la référence française est particulièrement visible au plan théorique dans les études portant sur l'inscription de l'idéologie dominante dans les romans et la poésie haïtienne. Depuis les poètes nationaux, les poètes de la ronde, aux surréalistes comme Magloire Saint-Aude, en passant par l'indigénisme et la négritude. Dans plusieurs études qui datent du début des années 70, on est frappé par la présence très précoce au Québec des travaux de Louis Althusser, de Roland Barthes, de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Julia Kristeva, au début des années 70. Alors, je demandais à Erard Jadot, quand j'étais à Haïti, mais on n'étudiait pas ces auteurs. Il n'était pas très connu au Québec en 72, etc. Mais lui, il a fait des études à la Sorbonne, et il a fait des études aussi, il était étudiant de Kristeva. Donc, il a divulgué ses idées, ses concepts ici, dans cette revue québécoise Nouvelle Optique. Alors, il y avait aussi Pierre Macheret, par exemple. Il y avait des études critiques de tel quel. Il faut aussi évoquer la publication dans la Nouvelle Optique en 73 de l'étude de Michel Serres, le grand philosophe français, une étude magnifique sur, qui s'intitule « Christ noir » sur la coprésence dans « Gouverneur de la Rosée », le chef-d'œuvre de la littérature haïtienne, dans la coprésence des mythes bibliques et des mythes agraires afro-chrétiens de « Gouverneur de la Rosée », le grand roman de Jacques Roumain. Et c'est une étude qui paraît la même année dans la célèbre revue française Critique, en janvier 73, la même année. Donc, c'est très intéressant, je trouve, de ce point de vue, de cette divulgation précoce des études de Michel Serres, par exemple, ou de Jacques Derrida au Québec. Le Québec et ses problèmes d'actualité ne sont pas pour autant absents dans Nouvelle Optique. Bruno Roy contribue à la revue comme illustrateur de la revue et il organise, et la revue organise à Montréal des tables rondes, des rencontres et des colloques qui la rapprochent du mouvement social et syndical québécois. Alors je vais rapidement conclure sur cette revue. Si Nouvelle Optique apparaît fortement marquée par le marxisme et à un certain degré par un maoïsme d'obédience parisienne 68arde, contrairement d'ailleurs à Dérive et à Rupture, elle a su développer un véritable sens critique, visible surtout dans ses analyses de pratiques idéologiques dans les champs social et littéraire en Haïti. Cependant, comme à peu près toutes les revues de gauche au Québec des années 60-70, je pense ici à Stratégie, la revue Chronique ou même Parti pris, elle s'éteint au bout de quelques années, en 1973, pour des raisons financières et aussi idéologiques, se trouvant également aux prises avec la contradiction entre le nationalisme et le socialisme marxiste, comme les revues québécoises comme Chronique, Stratégie et même à un certain degré Parti pris. Alors je vais parler maintenant de Dérive, une revue qui compte 12 années d'existence. À l'opposé des Nouvelle Optique, Dérive n'est pas tourné vers l'espace d'origine des immigrants, même si son principal fondateur, Jean Jonassin, écrivain d'origine haïtien, étudiant à l'UQAM, s'intéresse au potentiel culturel des immigrants et à de la migration et de la culture migrante. Dès sa première livraison, l'objectif des dérives se veut interculturel, expérimental et interactif. La vocation de l'équipe de rédaction dont je vais parler, de s'ouvrir à d'autres cultures, de les faire connaître à travers la réflexion critique et la création, est clairement accentuée par le sous-titre de cette revue. Tiers-monde Québec, avec une barre, backslash, tiers-monde Québec, une nouvelle conjoncture culturelle. Fin de la citation. D'autres sous-titres, c'est très intéressant de voir comment une revue change de sous-titres, comment elle se positionne. Alors, il y a d'autres sous-titres ou encarts de présentation qui vont suivre en révélant au fil des années une recherche de positionnement qui vise justement l'éclatement des thèmes, la traversée des discours, l'excentrement, la dérive. Dans le numéro 7 de 77, la revue s'auto-présente comme, je cite, « revue culturelle, création, analyse, information », on ouvre la parenthèse, « sur le tiers-monde et le Québec ». Et dans le numéro 17 de 79, on voit apparaître à côté du titre « dérive » une devise « du Québec, une ouverture exemplaire sur les cultures différentes ». Et en 79, toujours, le numéro 19, la revue se désigne ou s'autodésigne dans un encart, je cite, « revue interculturelle, essentiellement ouverte aux tierces expressions en marche au Québec, en Afrique, en Amérique latine, etc., pour l'émergence de nouvelles pensées critiques. » Fin de la citation. Et la dernière appellation, en 81, le numéro 28, elle se nomme « dérive, revue interculturelle et est multidisciplinaire. » Alors, le premier collectif de rédaction de dérives, qui est aussi le collectif de production, est composé en 75 de ces deux fondateurs d'origine haïtienne, Jean Jonassin, émigré au Québec en 72 et à l'âge de 22 ans, et de Nanny Piou, spécialiste du créole haïtien, tous les deux, ils étaient étudiants au département d'études littéraires et de linguistique à l'UQAM. Et ensuite, il y avait dans la première équipe de rédaction, de production, deux Québécois, Pierre Deschamps et Jean-Pierre Durand. Et cette équipe va s'élargir assez rapidement par la cooptation de jeunes intellectuels québécois immigrés, Aziz Alloui du Maroc, Franco Vinuela du Chili, ou des intellectuels québécois de souche, Chantal No, Dominique Lozon et Francine Saillant, qui étaient encore professeurs d'anthropologie ici. Et donc, plusieurs de ces rédacteurs sont étudiants et jeunes poètes qui publient dans la Nouvelle Barre du Jour. Seul Jean Jonassin aura une visibilité institutionnelle un peu plus grande à partir de 78 comme cofondateur à côté d'André Vanas et de Gilbert David de l'Association des éditeurs de périodiques culturels québécois, devenue la Société de développement des périodiques culturels. Donc, si l'on se place dans une perspective diachronique qui englobe la totalité de ces 56 numéros, parus pendant 12 ans, de 75, je rappelle, à 97, il est possible de distinguer deux réseaux de sociabilité littéraire, parallèles et complémentaires, qui vont sous-tendre l'activité éditoriale et la gestion intellectuelle de dérives. Un premier réseau, qui permet de nouer des liens utiles, pratiques et rentables, et un second qui est nécessaire pour frayer un canal de diffusion des idées, des valeurs et des modèles. Alors, le premier réseau est composé d'acteurs qui travaillent dans diverses institutions et qui sont capables d'initier les rédacteurs à la production de la revue. On y compte tout d'abord Claude Beausoleil, qui publie sa poésie aux éditions du Jour et qui collabore de près à plusieurs revues montréalaises. Et Claude Beausoleil a enseigné comme professeur, enfin, ou comme chargé de cours, Jean Jonassin, comment produire une revue culturelle. On compte d'autres amis complices vont se recruter dans le monde de l'édition et de l'imprimerie, comme les frères François et Marcel Hébert, directeur de Herbe Rouge, Claude Robitaille de la revue Au Beau Québec, ou Jorge Guerra de la revue OVO, consacrée à la photographie. Parce que Dérive est une des premières revues culturelles au Québec qui va bénéficier du photomontage. Dans les années 80. Et je dirais que, il y a donc des photographes. Il y a Jean-Marc Côté qui est devenu graphiste de Dérive. Il travaillait aussi dans la revue Prisme. Et il y a plusieurs collaborateurs qui travaillent dans des agences du livre et dans les librairies, comme la librairie Déhomme, la librairie Québec-Amérique et l'agence du livre français. Alors, le second réseau de Dérive se structure selon les modes de fonctionnement du réseau proprement littéraire et intellectuel, qui est scellé, ce réseau, soudé, si vous voulez, intellectuellement, par une communauté de projets et d'affinités, et qui est étendu à un réseau de correspondants et de lecteurs. Alors, à lire le premier numéro de revue, il apparaît que les affinités électives, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est un concept de l'école de Chicago, notamment de Georg Simmel, c'est-à-dire quand on dit affinité élective, c'est, bien sûr c'est pris à partir d'un poème de Goethe, mais dans la sociologie de la culture, il s'agit, quand on dit affinité élective, ça désigne une interaction entre un milieu intellectuel donné et les valeurs de référence, au-delà des complicités très ponctuelles ou très conjoncturelles. Donc, si on voit au début que les affinités électives penchent du côté du milieu qui gravite autour des revues de gauche, marxistes, maoïstes, situationnistes, comme Stratégie et Chronique, et des revues de création poétique, comme Herbe Rouge et La Nouvelle Barre du Jour. Il s'agit de développer une stratégie de cooptation des collaborateurs reconnus, soit pour leur activité critique, moderne ou postmoderne, imprégnée de pratiques formalistes, soit pour leur écart ou opposition ouverte au discours nationaliste dominant de l'heure. Et parmi les principaux collaborateurs qui écrivent régulièrement dans Dérive, on doit mentionner Pierre Monnet, Denis Vanier, le poète, André Roy, ce sont des poètes qui publient aux Herbes Rouges. François Charron, qui est associé aux Herbes Rouges et à Chronique et à Stratégie, et il était cofondateur de Stratégie en 72, ainsi que Philippe Eck, qui se réclame du marxisme et qui publie dans la rubrique Intervention du numéro 19 de 79, une étude qui s'intitule Poétique des Herbes Rouges, mais poétique avec éthique. ETH, poétique des Herbes, où il va critiquer, un peu à mon avis à l'emporte-pièce, le discours nationaliste, le lyrisme prétendument rétrograde des poètes de l'Hexagone. Et à ces groupes peuvent être également rattachés Patrick Straram, le bison ravi, son pseudo, animateur de Chronique, et Claude Beausoleil, qui écrit un long article en deux parties, Remarques sur la poésie québécoise actuelle, dans les numéros 5, 6 et 8 en 76-77. D'autre part, Dérive va ouvrir ses colonnes aux universitaires, comme Pierre Leroux, et aux essayistes comme Geneviève Amiot des éditions du Norrois, ainsi qu'aux créateurs acadiens comme Herménégilde Chiasson et intellectuels et écrivains québécois d'origine diverse tels Anne-Marie Alonso d'origine égyptienne qui publie dans la Nouvelle Barre du Jour, Marco Micone italien, Heidi Bouraoui qui était installée à Toronto, ou encore justement Patrick Straram, poète et essayiste d'origine française, ancien membre de Parti pris, proche du situationniste français Guy Debord, celui qui a écrit La Société du spectacle. On doit noter dans ce contexte que pendant ces deux premières années d'existence, de 75 à 77, Dérive met en alternance et juxtapose les contenus québécois et tiers-mondistes. Ainsi, on voit paraître, pendant ces deux premières années, des dossiers ayant un contenu international, et déjà à partir de l'année 78, les dossiers 14-15, la prédilection va être donnée à l'échange, au déplacement, au décentrement des problématiques hors Montréal. Et cette prédilection va devenir manifeste à dérive. À travers les dossiers de la revue du début des années 80, nonobstant la critique poursuivie du nationalisme, on peut percevoir une lassitude face au discours antagoniste qui entend intervenir sur la scène publique québécoise. Et cette attitude aura des répercussions sur les choix de plus en plus diversifiés, mais aussi de plus en plus éclatés de thèmes, de problématiques et de débats. Dès lors, plus on avance dans les années 80, plus on observe la volonté de dérive d'assumer un discours marginal par le truchement des dossiers obliques ou résolument centrifuges. La conception des sommaires de la revue s'ouvre davantage sur les questions féministes liées à la recherche esthétique, celles aussi liées à l'immigration, à la problématique amérindienne au Québec, dans les Saguenay, mais aussi dans les Amériques, au cinéma et aux arts plastiques, tout en donc cette volonté accueille aussi des textes à visée politique et militante qui sont sensibles aux luttes anti-impérialistes au Chili, au Salvador et au Nicaragua, à l'oppression du duvalieriste en Haïti et orientée davantage sur l'Amérique centrale et les Caraïbes. À partir de 81, parallèlement au décloisonnement des contenus, les réseaux littéraires de dérive va intégrer de plus en plus de collaborateurs haïtiens, latino-américains et européens, tandis que les contributions des collaborateurs québécois abordent des questions théoriques et critiques, souvent par le biais des approches féministes qui dépassent l'horizon local. Et ces réseaux littéraires deviennent ainsi un chantier non seulement pluriculturel, mais je dirais véritablement pluridisciplinaire, interdiscursif, qui est ouvert à une américanité continentale. Pour la revue, cette ouverture aura eu l'avantage de donner une empreinte concrète à l'image collective d'une Amérique des compagnons, pour paraphraser Gaston Mirand. Du même coup, la revue atteint une importante audience critique au plan international, allant d'une simple notice à des articles de fond, tant dans les journaux, magazines et revues universitaires au Québec ou au Canada français, on en parle dans Le Devoir, La Presse, Canadien Forum, Liberté, Le Quotidien, Proté, mais aussi en France, dans le monde diplomatique, magazine littéraire, dans notre librairie, Jungle, mot pour mot, la revue des revues, mais aussi aux États-Unis, dans les revues universitaires comme Kalalu ou Research in African Literature. À la même époque, dérive a recours à d'autres formes d'action promotionnelle plus médiatiques. Ainsi, le numéro 31-32 de 82, avec le dossier Voix maghrébine, préparé par Heidi Bouraoui, est lancé à la librairie parisienne Branchet, autrement dit, est vendu à 100 exemplaires le même soir, lors du lancement. En 83, le triple numéro 37-38-39, contenant les études sur la littérature brésilienne, est une anthologie de la nouvelle brésilienne qui regroupe certains auteurs inédits, jamais traduits en français, dans l'espace francophone. Cette revue est largement commentée au Brésil par Leia Libros, Sabado, etc. Maintenant, je vais vous laisser circuler pour que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air, comment elle est composée. Et la livraison 44-45 en 84 est consacrée à la musique contemporaine au Québec. Et c'est un numéro qui est accompagné d'un disque vinyle de 45 tours avec les compositions de Pierre Mercure et de Claude Vivier. Et ce numéro va bénéficier d'un lancement lors des rencontres internationales de la musique à Montréal et à Paris, dans une émission spéciale sur France Musique, diffusée en direct de la délégation du Québec. Enfin, les 15 derniers numéros de dérive, dans les 15 derniers numéros, on peut observer un réel effort pour donner une large place à des interactions culturelles concrètes entre les Québécois et le monde, au-delà de tout paternalisme et toute empathie de surface. Sont ainsi mis en œuvre les objectifs transnationaux de la revue, tant par la pluralité des enjeux d'actualité, critiques, théoriques et proprement créatifs, que par l'association au réseau de collaborateurs divers par leurs origines géographiques et culturelles. Et plusieurs sommaires reflètent ces préoccupations. Les numéros 40-41 de 84 sont consacrés au thème du voyage et aux dérives à travers l'espace, les langues, les films, avec la contribution du professeur américain d'origine berbère Reda Bensmaïa et des spécialistes universitaires québécois, les littéraires, les historiens, les anthropologues, les géographes, comme Réal Ouellette de l'Université de Laval, Denis Delage, Normand Douaron, Francine Saillant et André Fortin. Par exemple, le numéro 51 de 86, Prospective, Perspective, contient une analyse sociopolitique d'André Fortin, Québec, tiers-monde, une nouvelle conjoncture. Ce numéro contient une lettre ouverte à l'ouverture à l'autre, signée par le géographe Jean Morisset. Et il y a un article de Michel Larousse sur l'esthétique du cinéma africain. Donc les universitaires québécois parlent des expériences du cinéma africain ou maghrébin. Et en 84, c'est le numéro 43, il y a le dernier appel à contribution ouverte. Dorénavant, à partir de 84, du numéro, la revue va publier uniquement des numéros thématiques dont la production typographique et matérielle est très soignée. Il y a plusieurs numéros doubles avec une couverture sur papier glacé. Et donc, c'est le numéro qui circule. On peut mentionner le sommaire 43 sur le cinéma égyptien sur Youssouf Kachin et les dossiers 46-7-48, musique nouvelle d'Amérique latine accompagnée d'un disque comme ce fut le cas pour le numéro sur la musique au Québec. Le numéro sur la musique contemporaine au Québec. Donc je vous laisse regarder un petit peu comment c'était fait avec un disque vinyle à l'intérieur. Merci. Il y a aussi un sommaire, un dossier sur Mouloud Mammeri, un grand écrivain maghrébin, langue et langage de l'Algérie, qui porte sur la langue et la culture berbère. Et ce numéro a été préparé par Pierre Monette en collaboration avec l'Association des Berbères du Québec à l'occasion de la venue de Mammeri à Montréal. Et le dernier numéro, respectivement sur le cinéma québécois Nouveau Courant, Nouvelle Critique, c'est un dossier dirigé par Michel Larouche et il est majoritairement consacré aux réalisateurs, aux cinéastes immigrés comme Paul Tana, Bachar Chbib, Michael Roubaud ou Marilou Mallet du Chili. Et il y a un numéro sur Franck Étienne, le grand écrivain haïtien, un des derniers numéros de 86-87, avec une pièce de théâtre de l'auteur, de Franck Étienne, mais traduite du créole. Cette pièce s'appelle « Casse les os »,« Casser la poche des os » en créole haïtien, et qui est sélectionnée, cette pièce, la même année au Festival du théâtre des Amériques. Et il y a aussi un récit d'Élise Gauvin, qui a fait un séjour en Haïti, « Haïti, carnet de voyage ». Enfin, le tout dernier sommaire, « Impression de Chine », c'est vraiment le dernier 55-56 en 87 qui est dirigé par Linda Amiot. Il donne significativement une large place au regard des Québécois sur la Chine avec les contributions entre autres de Jean-Pierre Ronfard, Sylvie et Paul Beaulieu, Carole Dupuis et André Gagnon. Alors je vais conclure sur Dérive. On doit se demander pourquoi une revue comme Dérive s'éteint et disparaît du marché des revues québécoises au moment où elle réalise véritablement son projet transculturel, celui d'ouvrir le Québec au monde et de décloisonner les cultures, la discipline, la pensée critique. Jean Jonassin, le rédacteur en chef, lui-même voit trois raisons principales à cette éclipse de la revue. La formation sans cesse renouvelée d'un comité de rédaction provisoire, Et il y a l'effritement du personnel technique, les aléas de l'adhésion des collaborateurs et de l'abonnement des lecteurs, et bien sûr le sous-financement dû aux coupures budgétaires des organismes qui demandent la rentabilité immédiate et une visibilité médiatique immédiate. Et il faut aussi évoquer une cause objective, un peu plus terre-à-terre, mais elle est objective. En 1987, Jean Jonassin n'arrive pas à trouver la relève parce qu'il va quitter la revue et il va passer comme conseiller à l'édition à la ville de Montréal, au bureau de communication et des relations interculturelles, sous le premier mandat du maire Doré. Mais il semble qu'à côté de ces contingences et de ces causes structurelles internes, à mon avis, il y a aussi des raisons plus souterraines, moins évidentes, mais qui doivent être rattachées au degré de légitimation de cette revue dans un certain état du champ littéraire au Québec. On devrait, à mon avis, prendre en considération le fait qu'en pratiquant une hétérogénéité radicale, voulant jouer de tous les genres et de toutes les problématiques, la revue ne pouvait que mettre en déroute une bonne partie du lectorat québécois. Selon Pierre Neveu, plus tard, l'expérience de Vice Versa traduira une situation similaire. Mais outre ce facteur de hétérogénéité, la radicale, d'ubiquité, une autre hypothèse pourrait être avancée. Même si une bonne partie de l'intelligentsia québécoise avait été proche de la revue et avait activement participé à ses activités, des rives, à mon avis, pouvaient être perçues, du moins aux yeux d'un lectorat potentiel, susceptible de lui assurer un rayonnement au Québec en tant que revue d'idées, elle pouvait être perçue comme trop étrange et surtout comme trop décollée des enjeux sociaux et politiques québécois. En effet, en privilégiant des discours esthétiques, littéraires et artistiques et des enjeux révolutionnaires ou anti-impérialistes dans le tiers-monde, en questionnant même le discours nationaliste dominant au Québec, cette revue évacuait de son champ de vision, de visibilité, les débats, toujours très vifs à l'époque post-référendaire, autour de la souveraineté du Québec. Mais en même temps, cette réserve à l'égard du discours dominant montre bien le caractère anticonjoncturel de dérive, de même que son indépendance à l'égard des contraintes institutionnelles et discursives au Québec dans les années 70 et 80. Je vais passer maintenant à la dernière revue que je vais commenter, Rupture, qui est une revue des années 90. Alors, publiée à partir de 1982 comme revue trimestrielle, Rupture, qui a un sous-titre, La revue des Trois Amériques, Rupture, la revue des Trois Amériques, est celle qui va privilégier surtout les textes de création. Des essais critiques qui s'y trouvent insérés témoignent d'une pluralité de questions littéraires, mais sans donner le sentiment d'une orientation idéologique définie. La revue est fondée déjà en 92, la plupart, son directeur, Edgar Gousse, linguiste, chercheur et poète d'origine haïtienne, et par son premier rédacteur en chef, Jean-Pierre Pelletier, enseignant, poète et traducteur d'espagnol. Ces deux personnes, Edgar Gousse et Jean-Pierre Pelletier, ont derrière eux une expérience d'éducateur pour avoir travaillé dans une agence du gouvernement québécois, le COFI, Centre d'orientation et de formation des immigrants. Un peu plus tard, au collectif de la rédaction vont se joindre Paul Larac, poète haïtien exilé depuis 1961 à Cuba et aux États-Unis, et Hugues Hazelton, auteur, correcteur de preuves de la revue, traducteur, professeur de la traduction en espagnol à l'Université de Concordia de Montréal et co-auditeur d'une anthologie de textes canadiens, québécois et hispano-américains qui s'intitulait « Compañeros », portant sur l'Amérique latine, qui a été publiée plus tard en 91, avant le début de la revue. 91, c'est ça. Au fil de ces 4 années d'existence, d'activité, la revue s'assure un très vaste réseau de collaborateurs composée d'écrivains et de chercheurs québécois, comme Paul Chamberlain, André Carpentier, François Charron, Jean-Paul Coupal, Denis Desjardins, Jean Morisset, et de ceux qui ont immigré au Québec et au Canada. Il y a des Colombiens, il y a une grande liste de noms, il y a des Haïtiens comme Anthony Phelps, Joël Desrosiers, Max d'Orsainville, Claude Georges, il y a des Chiliens, Jorge Echeverri, les Salvadoriens, il y a des Brésiliens comme Sergio Coquis, qui deviendra illustrateur de plusieurs dossiers de la revue de Rupture, ou des Brésiliens qui demeurent au Brésil, comme Zila Bernd, en tant que traductrice du portugais. On compte aussi des Guadeloupéens, comme le grand écrivain Ernest Pépin de la Guadeloupe, des Cubains, Rafael Duarte Jiménez, Roberto Fernández, des Mexicains, des Argentins, des Portoricains, des Dominicains, et aussi des Américains, Gary Tutroff et Jack Hirschman. Et ce vaste réseau de collaboration, bien sûr, je n'ai pas énuméré tous les noms de la liste, donne justement l'idée d'un immense réseau de sociabilité qui permet de rendre compte des relations très serrées entre un milieu intellectuel et littéraire pluriculturel et une communauté de valeurs et de références. Et de ce point de vue, Rupture continue à bien des égards l'orientation globale prise par dérive. Elle refuse l'enfermement communautaire, elle se propose d'ouvrir le Québec sur le monde extérieur et de le situer à la croisée des cultures. Or, il y a une chose qui est très caractéristique pour Rupture, c'est pour mettre en pratique ce projet qui marque l'originalité de Rupture. Cette originalité qui consiste sur des orientations essentiellement culturelles, son objectif, c'est de poser le base d'une littérature des Amériques. Et dès son premier liminaire, la rédaction formule ainsi cet objectif. Je cite « Rupture, un vaste projet d'amitié entre les peuples de trois Amériques. Revue ouverte aux dimensions plurielles. Vivre, écrire, mais rompre. » Donc c'est un peu paradoxal. D'autres se méfient de l'utopie dans ce qu'elle contient de totalitaire, donc de menaçant pour l'écriture. Conscient, nous avons choisi de composer avec elle, avec l'utopie. On sait qu'elle peut être nourricière. Toute poésie, toute écriture est un champ ouvert, non fermé. Un champ, ça veut dire comme chanson, champ. Un champ ouvert, non fermé. Telle est la voie, puisée à même la source des mots et des gestes des peuples des trois Amériques pour donner à l'écriture un sens inédit, une clarté nouvelle. Rompre à tout prix pour mieux converger. Fin de la citation. Alors, dans l'éditorial du second numéro de 93, signé par Gousse et Pelletier, et intitulé « Les Amériques ont faim », il y a ce projet d'interpénétration des cultures américaines débouche sur le concept image de trans-américanité qui s'est nourrit à l'instar des grands manifestes anthropophages brésiliens de Osvaldo de Andrade, de la métaphore d'ingurgitation et de digestion de l'autre. Je cite « Les Amériques ont un corps. Et bien qu'elle ne soit pas palpable au toucher, siècle après siècle, elles ont appris à se redéfinir. D'où la notion de transaméricanité que nous évoquons aujourd'hui. Du cannibalisme culturel, quoi. Bien sûr, on se mangera. Je te mange, tu me manges, vous vous mangez, nous nous mangeons l'un l'autre, pour qu'à la fin, on ne fasse plus qu'un seul, avant de se redéployer en des multiples ramifications d'un même arbre. De la baie d'Ungava à la terre du feu, on peut rencontrer un condensé du genre humain dans tous ses états. D'ores et déjà, nous sommes contemporains de quatre continents. Et dans l'éditorial 3, en 93, cette insatiabilité, ou cette boulimie, si vous voulez, dévorante et revitalisante devient le synonyme même de l'imaginaire transaméricain. Je vais citer car c'est par la contamination des voix singulières, la libre circulation des mots et des gestes, le foisonnement de l'imagination, le débordement et l'ingestion de s'appropriant l'autre, que nous nous renforçons. Nous ne sommes point des épiciers. Nous veillons à l'ivresse des corps enlacés et des langues entremêlées. La transaméricanité vise à abolir les frontières. Alliance entre migrants de l'imaginaire, où le nord et le sud, l'est et l'ouest se retrouvent, se reconnaissent et s'épousent dans le creuset de notre terre commune, les Amériques. Excusez-moi. La visée ainsi exprimée est de rompre, d'où rupture, avec les barrières géographiques et linguistiques, de proposer des ponts et des passerelles afin d'interroger les possibilités d'une identité culturelle commune à travers, entre et au-delà des différences américaines. Et l'indice, j'aurais dû en parler peut-être plus tôt, mais c'est ça, l'indice le plus tangible de cette transaméricanité est l'immense travail de traduction à l'œuvre. Ainsi, cette revue commence à paraître comme une revue trilingue à ses débuts. Revue, la revue des trois Amériques, du Nord, du Centre et du Sud. Elle va devenir quadrilingue depuis le numéro 4 de 94, avec des traductions alternées de son contenu en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Désormais, chaque poème, chaque texte de fiction, chaque texte de réflexion, voire les sommaires et les notices biographiques sur les auteurs et les traducteurs, sera publié en quatre langues. Un pareil assemblage au-delà des frontières, contre toute fermeture nationale et contre toute rhétorique patriotique, fait des ruptures un lieu transnational, dont les seuls impératifs sont ceux du langage poétique et de la littérature. Et au niveau du contenu, Rupture donne une place privilégiée à la poésie, bien que la fiction, la critique littéraire et des textes de réflexion y soient aussi présents. Si la juxtaposition des textes en quatre langues à l'intérieur de chaque numéro n'en facilite pas forcément la lecture, la véritable mise en relation y reste manifeste. Le plurilinguisme de la revue invite à une lecture transversale de plusieurs espaces littéraires et de diverses problématiques. Ainsi, les trois premiers numéros proposent un choix de poèmes de trois hémisphères américains. La revue publie aussi des numéros libres, non thématiques, qui alternent avec des numéros thématiques. Par exemple, le numéro 4 est consacré à l'écriture des femmes et le numéro 8 à la question de l'exil en Amérique. Le numéro 6 de Rupture paraît sous la forme d'anthologie, le Mexique littéraire et culturel, avec les textes de 30 écrivains mexicains. Suivront d'autres dossiers qui s'apparentent à des anthologies. Le numéro 9 de 95, littérature québécoise contemporaine, publié en hommage à Émile Nelligan, ouvre ses pages à une vingtaine de poètes francophones, dont Paul-Marie Lapointe, Gaston Miron, Nicole Brossard, Paul Chamberlain, et des poètes anglophones, Louis Dudek et Douglas Gordon Jones. Le numéro 10, la littérature caribéenne de fin de siècle, publié en hommage à Jacques Roumain, contient les textes de 8 écrivains, dont Derek Walcott, le futur prix Nobel de Sainte-Lucie, Aimé Césaire, Franck Etienne, mais aussi George Lamming et Jamaica Kincaid de la Jamaïque. Le numéro 12, Argentine, Chili, Uruguay, lecture actuelle, rend hommage aux classiques, Olveiro Girondo, Vincente Huidobro et Delmira Agustí, mais propose aussi le choix de 15 écrivains contemporains représentatifs de chacun de ces trois pays du cône sud. Enfin, le dernier numéro, 14 de 99, Poésie vivante du Venezuela, publie un article panoramique et les œuvres de 27 poètes de ce pays, de Venezuela, et avant sa disparition en 99, Rupture préparait deux numéros monographiques, le numéro 16 sur Voix nouvelle de l'Amérique centrale et le numéro 18 sur littérature brésilienne des années 90. Le pluralisme littéraire de cette revue, incarné par l'orientation qu'elle donne aux numéros thématiques et les anthologies, devient ainsi l'occasion pour les écrivains et les lecteurs de se familiariser avec les œuvres des hémisphères américains différents. Edgar Douce donne l'exemple des affinités concrètes que de telles lectures peuvent engendrer. Il dit par exemple, je cite, « Les Chiliens,
ont tout de suite compris le sens des poèmes de Louise Desjardins sur Royan-Noranda, car ils vivent aussi dans un pays où les mines sont, ont beaucoup d'importance. Fin de la citation. Un des chercheurs québécois qui a travaillé sur cette revue, Michel Narro, souligne pour sa part que, à la fois l'originalité de la quête de légitimité de cette revue et le caractère un peu utopique des transferts culturels visés par Rupture. Je cite. Non seulement la revue publiait-elle des écrivains d'ères culturelles distinctes pour les faire découvrir hors de leur contexte annonciatif, mais elle fondait sa légitimité sur un double objectif, celui de traduire cette expression dans les quatre langues principales du continent et d'intégrer ces écrivains à un espace artistique commun. Expérience en pratique unique, expérience en partie unique, Rupture présente un projet de convergence culturelle porté par une utopie qui s'apparente à un nouveau rêve bolivarien. Or, comme vous savez, pour Simon Bolivar, le concept d'américanité, americanidad, fut au 19e siècle un projet politique tourné contre la doctrine isolationniste des États-Unis du président James Monroe, America for Americans, pour les États-Unis. Alors, ici, il y a ce qui frappe, au contraire, dans Rupture, c'est précisément son ouverture aux contributions et aux traductions en anglais qui favorise un dialogue intellectuel et littéraire au-delà des rapports de force idéologique et interlinguistique entre le Canada anglophone et le Québec, d'une part, et d'autre part, entre les États-Unis et l'Amérique latine. Enfin, un autre aspect à relever concerne la diffusion de la revue. Avec son tirage qui allait de 100 à 1000 exemplaires, Rupture est distribuée dans plusieurs pays et sur tous les continents. Elle bénéficie largement d'une remarquable visibilité par le biais des associations des écrivains et des séances de lancement lors de nombreux festivals comme la Rencontre internationale des écrivains à Monterrey, Festival de la poésie latino-américaine en Argentine à Rosario, le Festival de la poésie et de la culture des Caraïbes à Santiago de Cuba, Festival de la poésie et des arts des Amériques à Montréal. Et en même temps, les articles sur Dérive paraissent, des articles sur Dérive paraissent dans la presse au Québec, comme Le Devoir, la revue Voir, The Gazette, Hour. Et puis, il y a des notices critiques et des articles de fond à propos de Dérive qui sont largement publiés dans la presse latino-américaine. Au Mexique, il y a un supplément littéraire plural dans Excelsior et La Jornada. À Cuba, dans la revue Sierra Maestra. En Argentine, la capitale, au Brésil aussi, Journal de Brasilia et Correio Brasiliense. Au Chili, Las Últimas Noticias. Et pour certains journaux sud-américains et revues, associer cette revue à Québec, au Québec, devient une occasion de parler largement de l'histoire du Québec et de sa société, occasionnellement. Parce que la revue, elle est publiée en espagnol, donc on la lit là-bas. Mais en même temps, il y a les contributions des poètes et des écrivains québécois, il est publié en français. Donc, quand on regarde le compte critique, le compte rendu critique, on voit que les rédacteurs de ces revues chiliennes, mexicaines, etc., ont l'occasion de parler, de diffuser la connaissance sur le Québec en faisant un compte-rendu d'un numéro. La fin de Rupture coïncide avec la décision d'Edgar Gousse de rentrer en Haïti en 1999, mais il faut également évoquer d'autres raisons qui donnent la mort à une revue culturelle de cette envergure, c'est-à-dire la fragilité financière consécutive à l'insuffisance des subventions. Et là, paradoxalement, par exemple, cette revue qui était quadrilingue, en quatre langues, se voit refuser l'aide du Conseil des arts qui subventionne des revues dont au moins 50% du contenu doit être publié dans une de deux langues du Canada. Donc ça n'entre pas dans la rubrique des subventions du Conseil des arts, parce qu'elle est quadrilingue. Alors si elle était bilingue, ça va, ou unilingue. Donc il y a d'autres difficultés techniques, celles liées à la gestion. Il y a aussi la recherche ardue des collaborateurs, des collaboratrices. Et dans le cas des ruptures, comme lieu de travail et des productions multilingues, tout cela signifie avant tout la pénurie des traducteurs. parce que les traducteurs, ce sont véritables viviers et ça a raison d'être. Et je vais conclure ma communication ou mon cours. Alors, je voulais dire en fin de parcours ou de la revue de ces revues, on peut dire que la trajectoire littéraire et intellectuelle de cette revue québécoise, fondée par les intellectuels haïtiens, marque certainement une nouvelle dynamique des rapports entre les cultures allophones et la culture québécoise dans les trois dernières décennies du XXe siècle. Et il faut à cet égard pouvoir prendre pleinement la mesure de leur projet primordial, que fut l'articulation sociale et culturelle du Québec avec le tiers-monde, en particulier avec les pays latino-américains et ceux de la zone caribéenne. Et ces projets se développent dans les années 70 et 80, jusqu'à 90, un peu en porte-à-faux, voire contre l'institution qui privilégie plutôt des discours centripètes. Et il faudra aussi souligner le rôle de ces trois revues, le rôle de baromètre en quelque sorte, de baromètre des potentialités, des potentiels de transfert culturel au Québec. Et en ce sens, ces trois revues diasporiques en quelque sorte, mais se rejoignent en opérant des interactions culturelles inédites. Elles constituent des lieux de croisement des voies plurielles vouées à une interminable quête de reconnaissance, et elles n'ont cessé d'interroger le Québec en l'éclairant de l'extérieur ou à contre-jour, mais sans jamais pourtant le mettre en retrait. Merci beaucoup de votre attention. Oui, s'il vous plaît, je vous en prie.
Inaugurer cette séance de questions. Je suis intéressée surtout par le passage de l'interculture et puis ensuite vers la transculture à l'intérieur de Véry. Parce qu'il semble qu'au Québec, ça a été peut-être plus développé par vice-versa, la transculture.
Oui.
C'est à elle, en tout cas, qu'on a encensé. Tu fais aussi qu'elle a été davantage étudiée comme un lieu d'émergence de la culture migrante. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on peut étudier des rives avec la transculture et qu'elle a plutôt marqué l'interculture à cette époque-là? Comment on se démarre avec ces termes-là?
Oui, avec ces termes-là, c'est-à-dire que elle vise la transculturalité des expériences culturelles, c'est-à-dire surtout l'éclatement des sujets, d'accord? Et si on pourrait parler des rapports interculturels entre deux espaces ou deux ou trois de contributeurs, par exemple, interculturalité, ce serait par exemple les thèmes haïtiens et les thèmes québécois. Mmh. Et ici, ça déborde parce qu'il y a une soif d'éclatement et de recherche des analogies des expériences entre les Amériques. Donc la transculturalité, elle est au-delà des espaces nationaux qui sont comparés ou confrontés. Mmh. C'est surtout le préfixe trans qui est important pour Jean-Jean Nassin, etc. Il l'explique d'ailleurs, c'est-à-dire être à l'écoute d'un problème esthétique ou national ou communautaire ou social. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La revue des Rives est une des premières qui s'intéresse à la situation des Amérindiens au Québec. Et en même temps, elle va chercher la situation des Amérindiens au Salvador. Donc c'est ça qui va... Donc pour ne pas renfermer la question, pour ne pas se replier sur nos Indiens. C'est déjà une différence au Québec, nos Indiens, c'est déjà une altérité, mais cette altérité unique ou seule ne suffit pas. Donc ça, c'est intéressant, c'est justement chercher des analogies, des différences. C'est peut-être, je ne sais pas si je réponds à votre question.
Parce que c'est sûr que quand on pense à la transculture, c'est vraiment quelque chose qui apparaît vraiment, qui réfléchit, il me semble, plus dans les années 90, à la fin des années 90,
oui.
Vraiment à partir de ça.
Oui.
Qui réfléchit après aux poètes, à partir des théories du du Cuba, il me semble,
par
Ortiz ou quelque chose comme ça.
Oui, de Fernando Ortiz.
C'est ça,
oui. Sur le métissage, c'est-à-dire trans.
À partir du tabac, il me semble, de plusieurs plantes de tabac qui.
Leandro Tassinari et Marco Micone et Fulvio Caccia parlent beaucoup du métissage, mais Vice Versa n'a pas publié en plusieurs langues. Elle a publié en italien, en français, un peu en anglais. Et puis, les plus gros de collaborateurs étaient soit des Italiens et des intellectuels immigrés au Québec. Il n'y avait pas beaucoup de collaborateurs québécois. Pas beaucoup, en tout cas. Québécois, je veux dire, de souche. Oui, mais moins, beaucoup moins qu'à des rives, par exemple.
Parce que ça m'intéresse de penser des rives en fonction de la transculture, mais il me semble que pour moi, c'est un peu décalé. Parce que je ne crois pas que dans des rives, on avait déjà ces termes-là pour la transculture. Il me semble que ça touche beaucoup plus l'interculture, mais quand on l'analyse, justement, avec un décalage, on peut poser ces termes-là. Mais je
oui, c'est que peut-être avant la lettre, un petit peu. Une revue transculturelle avant la lettre. Et là, préparer les terrains à Vice Versa, de ce point de vue-là.
Qui reconnaissent d'ailleurs dans plusieurs de leurs manifestes la porte de notamment l'effet d'exil, là, le fameux...
L'effet d'exil et d'ex-il. Par exemple, Robert Berouet-Auriol a publié dans Vice Versa. Oui.
Au dérive, la fin de dérive, vous parlez de la fatigue des abonnés, des éditeurs.
Oui.
C'est un phénomène social ou si c'est vraiment 56 numéros, c'est un point de vue, c'est déjà quelque chose de grand.
Oui, oui.
C'est un phénomène qui est arrivé socialement au Québec. Vous interprétez ça de même comme ça?
Oui. C'est-à-dire. Cette revue avait de l'argent. Ouais. Parce qu'il y avait, c'est dans le cadre de programmes de politique multiculturelle, du multiculturalisme canadien aussi. Donc elle, au début, elle avait pas mal d'argent, mais elle tirait à 1100 exemplaires et puis ça abaissait parce que parce qu'il faut des abonnés pour une revue. Et puis il y avait des gens qui se désabonnaient parce qu'elle était tous azimuts trop éclatée culturellement. Et même pour une intelligentsia, lectorat intelligentsia, de l'intelligentsia, c'est-à-dire des intellectuels, il y avait aussi une sorte de dérive conceptuelle et de dérive des problématiques éclatement un peu trop, c'est-à-dire le public n'était pas préparé à une telle hétérogénéité, à une telle, traversée. Ça c'est, j'ai discuté avec Jean Jonassin, il ne me donne pas raison, mais je pense que il y avait cette lassitude un peu, c'est-à-dire que
peut-être les mots vocaux que les gens aiment mieux.
Il y a ça aussi, mais oui, mais en même temps, elle était de plus en plus à un moment donné déconnectée de la problématique québécoise. Je parle pas de discussions sur dans la période post-référendaire, mais peut-être pour se maintenir, elle aurait dû peut-être alterner plus avec la problématique québécoise. Elle est devenue de plus en plus comme planétaire, donc transversale. Il y avait une étrangéité dans Dérive. Peut-être que c'est une des raisons de son activité, mais il y a d'autres raisons plus terre à terre, c'est-à-dire Jonassin qui était au cœur de tout. Il a quitté la revue parce qu'il était sollicité justement pour devenir, avec André Vanas, responsable de la Société des périodiques culturelles au Québec. Bon, il y a sûrement le phénomène de lassitude. 12 ans, c'est beaucoup. Oui. Non, de rien. Oui.
Est-ce que ces trois revues font appel à des jeunes?
Oui.
Oui, surtout. Oui.
Surtout dérive. Et il y a un conflit aussi dans dérive, c'est-à-dire quand ils vont appeler les jeunes poètes québécois. Les jeunes poètes de l'époque vont se positionner contre les poètes de l'Hexagone. À Dérive, tu vas retrouver plusieurs articles où, un peu à brûle-pourpoint, un peu violemment, on attaque le poète de l'Hexagone, parce que c'est une poésie un peu trop pathétique, trop lyrique, trop qui chante trop l'avènement du Québec, comme la nouvelle genèse du Québec, même si c'est pas une revue qui est, si c'est pas une poésie qui est réaliste, etc. Mais comme je disais, il y a plusieurs poètes québécois qui vont prendre position au sein des dérives contre l'Hexagone. Mais les gens de l'Hexagone ne polémiquent pas à dérive avec eux. C'est comme s'ils étaient un autre monde. Donc il y a, comme je disais, il y avait Philippe Heck et il y avait aussi Claude Beausoleil. Mais Claude Beausoleil se sentait comme à l'origine de dérive parce qu'il enseignait à l'UQAM, ça c'est très intéressant, mais je savais pas qu'il y avait un cours sur un cours sur l'ingénierie culturelle, aujourd'hui on appelle comment fabriquer une revue. Et Jean Jonassin a beaucoup appris. Donc il y avait des jeunes, Denis Vanier était jeune quand il est venu. Il y en a d'autres, mais par rapport aux écrivains qui publiaient dans Liberté et Parti pris, ceux-là étaient jeunes. Ils venaient des autres revues poétiques, des Herbes Rouges, des Chroniques, Stratégies.
C'est la génération, au fond, associée à ce qu'on a appelé la modernité.
Oui, la nouvelle barre du jour.
Et Rupture aussi?
Pardon? À Rupture, c'est très très différent parce que moi je n'ai pas sondé l'âge des contributeurs qui venaient de Chili ou de ça. Mais par exemple, Hugh Hazelton, qui a fondé cette revue avec. Il était professeur à Concordia et lui il maîtrisait bien le français et c'était un des premiers Québécois anglophones de Montréal qui traduisait les littératures des Amériques ibériques et hispanophones. Il avait une expérience, il n'était pas jeune lui, il n'était pas très jeune, je pense qu'il avait 50 ans à l'époque, que j'ai connu.
C'est intéressant les générations, comment il y a une succession de
Absolument.
Générations aussi à travers les...
Oui, il y avait des dissensions au sein de la revue aussi, mais moi je ne l'ai pas repéré vraiment, mais j'ai demandé à Jean Jonassin parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens avec lui pour faire une recherche. Alors il disait on était plutôt soudés, unis, il n'y avait pas de conflit entre nous, pas beaucoup, les gens partaient, venaient, etc. Mais parce qu'on s'imagine une revue qui disparaît, qu'il y a eu des dissensions ou des querelles intestines ou quelque chose d'interne, mais non, là dans la dérive ça c'est. C'est surtout le subventionnement, les subventions et puis les coûts de la production. Parce qu'un numéro comme ça, comme vous avez vu, ça coûte beaucoup.
Une toute dernière question. Ces revues-là, j'imagine, n'ont pas laissé d'archives, n'ont pas de fonds d'archives déposés.
Oui, je suis très heureuse de le dire.
Laquelle?
Il est en cours d'acquisition à BNQ, son fonds d'archives.
Dérive.
Jean-Jonathan.
Oui. Ah. Oui, mais c'est en cours. Oui,
ouais, mais ça c'est pas...
Il est à l'université.
Ça fait 2 ans qu'on essaie.
Ouais. Mais il y avait des numéros de dérives, je pense, ou des nouvelles optiques qui n'avaient pas de ISBN ou ISSN.
Je crois qu'ils sont tous...
Non, pas dérive, je parle de nouvelle optique. Okay. J'ai regardé.
Le centre d'études caribéenne et haïtienne de Montréal.
Oui, Sidica. Oui.
Beaucoup d'archives de nouvelle optique.
Oui. En tout cas, je pense que c'est un sujet très intéressant parce qu'on ne se rend pas compte des activités, de l'existence des revues multiculturelles, et interculturelles ou transculturelles déjà dans les années 70. Il y avait plusieurs événements qui accompagnaient cela aussi. C'est par exemple l'expo, les rencontres, etc., ces échanges. Et puis, ce que je dis au début, le fait qu'il y avait, par exemple, les rencontres québécoises internationales des écrivains qui commençaient, et puis il y avait l'année mondiale de la femme, il y avait le festival mondial de poésie ici à Montréal, où mon compatriote, le grand poète, le prix Nobel Czesław Miłosz, il a lu ce poème en anglais, en français ici. Donc il y avait beaucoup d'échanges et si vous regardez par exemple le numéro de la revue Liberté, où il y a au moins 5 ou 6 des années 80, où il y a les rencontres internationales des écrivains québécois qui invitaient des grands écrivains. Fuentes, Kundera sont venus ici. Je me souviens pas, il y avait des grands écrivains israéliens, etc. Amos Oz. Et c'est très intéressant de lire les actes parce que tout a été enregistré. Donc il y a même les répliques après les communications des écrivains venus du monde entier. Il y a des questions, des réponses. C'est très intéressant. Je ne sais pas si on a fait une étude sur les actes des rencontres internationales des écrivains québécois. Ce serait une bonne chose. Il y a quelqu'un ici pour plus d'informations, peut-être plus que je n'ai pu vous fournir, c'est Madame André Fortin et Francine Saillant. Ils sont encore professeurs ici, oui.
Justement, parlant de Francine Saillant, vous avez peu relevé son travail dans la Revue des Rives, mais c'est la deuxième collaboratrice en importance au niveau des textes.
Oui.
Puis, par une histoire courte, j'ai déposé un mémoire sur la Revue
des Rives. Ah, magnifique.
Fait que ça fait vraiment plaisir d'entendre parler de mon sujet avec un humain devant moi et quelqu'un de passionné.
Ben, je sais.
J'hallucine. Moi, je me suis surtout intéressée à la poésie de Derrick, parce que je suis très d'accord avec vous qu'au niveau de la transculturation des réseaux, il y a énormément. Au niveau du critère ethnocentriste, il y a plein de gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas des Québécois de souche, qui continuent à catégoriser comme ça. Mais moi, j'avais envie de penser l'écriture migrante au Québec, comme l'a réfléchi Pierre Neveu, Daniel Chartier, en s'attachant à l'esthétique migrante, et non à, finalement, la culture à laquelle on revient. Puis, en s'attendant au texte, notamment de Francine Saillant, qui a été très, très importante dans la revue, puis vous avez un petit peu parlé du féminisme, mais pour moi, il y a quelque chose qui joue dans Derrick, qui est tout à fait particulier avec le féminisme. À partir du moment où on questionne l'identité et le genre dans Derrick, et ça passe par le féminisme, c'est ce qui permet ensuite à Jonassin de questionner l'identité avec la question de l'ethnie, finalement. De l'ethnie, de l'appartenance culturelle. Ça prend ce questionnement-là dans des rives au niveau des textes et du travail textuel, parce qu'ils sont très bien dans l'avant-garde, pour permettre de questionner l'identité, non à l'ombre du paradigme national ou féministe, et de s'en aller vers une question qui nous amène à la transculture.
Il y a des concepts féministes qui sont travailler et confronter à d'autres concepts, ils sont très introduits dans des rives. Mais Francine Saillant, elle collaborait à distance parce qu'elle était à Québec et la revue se faisait à Montréal. Donc elle me racontait qu'elle prenait l'autobus voyageur, elle restait une journée et puis elle devait rentrer parce qu'il y avait des étudiants. Oui. Mais vous avez fait une enquête avec elle?
Oui,
c'est bien. En tout cas, je vous encourage beaucoup à vous occuper d'une revue culturelle peu connue, parce que c'est le patrimoine de votre culture ici au Québec. Et il faut, nous avons parlé tout à l'heure avec Marie-André Baudet, il y avait la revue Situation très importante qui n'a pas eu d'études. Donc, il y a des choses. Et une revue peut correspondre vraiment à vos affinités esthétiques ou idéologiques, même ou politiques. C'est très intéressant de voir quand elle commence, avec quelle orientation politique, ce qui est très intéressant dans une revue, c'est le positionnement par rapport à un champ déjà donné. C'est-à-dire, vous pouvez analyser la rhétorique, par exemple, ou l'argumentation d'une revue dans les liminaires ou les éditoriaux, comment une revue, et c'est un discours manifestaire, mais parfois pamphlétaire. Et c'est très intéressant de voir. Donc, il y a de la polémique souvent, etc. Donc, c'est toujours très intéressant pour quelqu'un qui est, qui aime l'écriture engagée, l'écriture progressiste, engagée, même si des revues peuvent basculer dans, dans une orientation plutôt de droite, elle se veut progressiste, mais par rapport à la gauche.
Écoutez, on vous remercie beaucoup.
Merci, ça me fait une bonne. Merci beaucoup.